Radio Free Gaza.
Radio.
Radio Free Gaza.
Free. Gaza. Un billet d'information intercommunautaire Bellux.
Tous les jours de la semaine, de 17h à 17h30 et le week-end de 15h30 à 16h.
En direct sur Radio Air Libre 87.7 FM.
Rediffusé sur Radio Panique 105.4 FM à Bruxelles.
Une émission qui fait le lien entre la flottille internationale pour Gaza et vous.
Retrouvez les podcasts sur le www.radiofreegaza.net.
Bienvenue tout le monde. Bienvenue Guillaume à la technique. Et bienvenue au 12e épisode de Radio Free Gaza. C'est un grand jour en Sicile où les bateaux partent aujourd'hui. Les bateaux partent de Siracusa. Et en Tunis, l'atmosphère est un peu différente. Doris va nous parler de ça. Et après, nous aurons un entretien avec Mouna Dachri de la Fédération internationale des droits humains. Elle va nous parler de Adala, le centre juridique pour les droits des minorités arabes en Israël. Vous allez comprendre pourquoi. Mais d'abord, nous essayons d'appeler Doris à Tunis. Oui, ça n'a pas l'air de marcher pour l'instant. Hello. Ah, quand même. Bonjour Doris.
Ah oui, quand même. Oui, quand même.
J'avais déjà peur que tu ne serais pas là.
Non, je suis là, Hans.
Super.
Je suis là.
Super, enfin, tu es là, tu es à notre radio.
Oui, je suis là à ton service, mon frère, dis-moi.
Oui, oui. Bah, raconte-nous un peu, Doris. On t'a entendu, enfin... Pas à la radio, mais on a discuté quand tu étais encore à Mao, à Menorca. Entre-temps, vous êtes arrivé à Tunis. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, quand on est parti de Barcelone, on a eu les difficultés de moteur avec le bateau. C'était quand même assez important parce que à la mer, il y avait beaucoup de vent, de houle. Et bon, il nous emmenait un petit peu n'importe où. Sans moteur. Donc ça a été difficile parce que la nuit c'était dangereux. Ouais. Hein. Les vagues nous emportaient d'un côté, d'un autre. On avait vraiment l'impression qu'on chavirait. On ne savait pas vraiment où. Finalement, on a essayé de tenir le bateau au maximum avec les voiles qu'on avait. On est arrivé à Majorque. Et à Majorque, on a réparé le bateau. Donc il y a deux gars qui sont arrivés. Deux professionnels, hein, mécanique navale, qui ont réparé le bateau.
Oui.
Et puis, ces gens-là, ils ne nous ont pas fait payer parce que, franchement, solidarité palestinienne, voilà, on était vraiment très heureux, c'était super. Donc, on est reparti de plus belle. Et 6 heures après, on est retombé en panne.
Oui.
Donc, en fait, on est reparti vers l'île de Mahon. Hein, donc, c'est une ligne juste à côté de Majorque. Et là, on s'est mis, on se dirigeait par là. Quand le matin, j'ai suspecté un des coordinateurs du bateau qui a eu, pour moi, un problème plutôt cardiaque, vu les paramètres que je lui avais pris. Oui. Donc j'ai suspecté ça et on a essayé de se dépêcher au maximum pour partir sur l'île et pouvoir aller voir un médecin. Là on est arrivé sur l'île et son cas était toujours stable mais ne s'arrêtait pas. Donc j'ai repris les paramètres et j'ai vu qu'il fallait absolument l'hospitaliser. Donc je suis partie en ambulance avec lui sur l'île de Mahon jusqu'aux urgences. Et aux urgences, ils ont fait un scanner de la tête et ils ont vu qu'il a fait une thrombose.
Oui.
Donc ils l'ont gardé en observation pendant la nuit. Et après, nous on est retourné sur le bateau et le lendemain, on est allé le voir à l'hôpital. Et le médecin nous a annoncé qu'il ne pouvait pas continuer sa mission parce que c'était beaucoup trop dangereux pour eux, pour nous.
Oui.
Donc on est reparti à l'hôpital pour lui redonner ses affaires et ça a eu un coup dur parce que c'était le coordinateur du bateau, donc on a eu un coup dur avec toutes les merdes qu'on a eues mécaniques, c'était quand même difficile. Donc on est reparti et on est retombé en panne pendant la nuit.
Oui.
Donc là on a eu vraiment 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 très très peur parce que là il y avait une tempête, rafale de vent, pluie, vraiment c'était vraiment très angoissant. Et puis on a été remorqué par le bateau Andara qui était tout près de nous et qui a vu qu'on était en difficulté. Donc pendant la nuit, il était 2h ou 3h du matin quand on a commencé à jeter des cordes à ce bateau. Bateau palestinien aussi, hein, donc qui naviguait en même temps que nous, et qui nous a remorqués pendant un jour et demi. Et après, on a essayé de faire redémarrer ce bateau, et on est resté sur un démarrage automatique, hein, tu sais, sur le pilotage automatique, on est resté là-dessus jusqu'en Tunisie, pendant plus de 16 heures, en fait. Donc, et là, on est arrivé hier matin. Hier vers 15h, on est arrivé ici en Tunisie et on attend maintenant les consignes de partir, de réparer le bateau, de voir un petit peu si c'est possible de repartir avec ce bateau. Et si c'est pas possible, il faudra qu'on se recheck dans d'autres bateaux, mais il y a tellement de monde ici, on est 653 personnes, c'est énorme. Il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de gens aussi qui ont désisté parce que la peur aussi, il y a eu quand même deux attaques de drones au port. Donc voilà, là maintenant on attend avec impatience ce soir les listes des personnes qui vont repartir.
Oui.
Avec les bateaux qui sont sûrs.
Oui.
Et on parle de 50% de la flottille qui se trouve ici, qui vont partir samedi. Après, les bateaux réparés pourront suivre. Donc, les premiers bateaux qui vont partir, c'est samedi si la météo est bonne. Mais normalement, ça devrait se passer bien. Et on rejoint la flottille italienne.
Oui, qui sont partis aujourd'hui.
Et ainsi que la flottille. Oui, et qui sont prêts, lui, depuis longtemps. Mais bon, avec tous les problèmes qu'on a eus, on a été obligé d'attendre un maximum de sécurité, quoi.
Oui, oui.
Mais on continue. On lâche pas.
Vous êtes très courageux.
Parce que voilà. Pardon ?
Vous êtes très courageux.
Ah, il faut parce que c'est on est engagé et on a tellement vécu des choses difficiles pendant 10 jours sur la mer que maintenant on n'a pas envie d'abandonner maintenant.
Ouais, je comprends. En plus, au Gaza, la situation devient encore pire de jour en jour. C'est vraiment incroyable.
Exactement. On est complètement abasourdi. Je pense que le monde entier il y a beaucoup de choses qui bougent, mais pas assez vite, malheureusement, pour que la situation puisse se calmer. Mais
oui.
On va essayer de faire un boom avec tout ce qu'on peut faire. Hein, les citoyens du monde qui sont là. Tout le monde se prépare pour pouvoir faire ce convoi humanitaire.
Oui.
Et on essaiera de faire au max. En tout cas, on sait qu'on ne rentrera pas à Gaza. Si on arrive à Gaza, on reste amarré et on enlève toutes les denrées, toute l'alimentation, tout le matériel médical qu'on peut leur donner. Mais malheureusement, on ne pourra pas amarrer parce que c'est une situation de guerre et on sait très bien qu'Israël pourrait nous tirer dessus comme des canards.
Ouais.
Donc voilà, c'est la situation pour l'instant en tout cas.
Ouais. Donc là, vous attendez le verdict, soi-disant, quel bateau et quelles personnes peuvent partir, c'est ça?
Exactement. Donc, restructurer les bateaux qui sont aptes à partir vite.
Oui.
Et pas les bateaux qui ont eu des problèmes en mer, comme nous on a eu. Hein.
Ouais,
donc, ces bateaux-là partiront samedi. Ils vont refaire les équipes aussi, parce qu'il y a des gens qui se sont... ils ont eu peur, hein, ce qui est normal, on est des humains.
Bien sûr.
Donc, il y a des gens qui ont quand même peur, donc ils se sont désistés. Donc, il y a des gens à remettre sur les bateaux. Oui. Il y a des gens à... Il faut refaire des équipes, en fait. Hein.
Oui.
Voilà, donc ce soir, on sera plus de précision pour le départ de samedi.
Ok. Oui, c'est, franchement, Boris, il faut savoir que ici en Belgique, on vous suit avec beaucoup d'intérêt sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup de solidarité, ça bouge un peu dans tous les sens. Évidemment, ça ne va jamais assez vite, parce que la situation...
Non, parce que c'est une organisation tellement énorme qu'on ne peut pas se permettre non plus de faire vite les choses. On a déjà organisé ça en très peu de temps.
Oui.
Donc maintenant, il faut se réorganiser. Maintenant qu'on est à Portus, il faut se réorganiser pour être sûr d'avoir les meilleurs itinéraires, les meilleurs bateaux, les meilleures personnes, pour être sûr de faire les choses correctement, quoi.
Tout à fait. Je comprends bien. Ok, Doris, je te remercie beaucoup.
C'est moi qui vous remercie. Et en tout cas, vous devez savoir ici que les gens sont toujours autant motivés malgré les attaques qu'il y a eu. Parce que ça fait quand même très peur, il faut dire ce qu'il y a.
Bien sûr.
Mais il n'y a pas grand monde qui se sont désistés. Les gens ont envie vraiment de se donner corps et âme pour cette cause qui nous touche tous mondialement.
Oui. Ok. Merci Doris.
Voilà. Avec plaisir.
J'espère.
Avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas de votre soutien. Merci à la radio.
Oui, au revoir.
Au revoir Hans.
Voilà, donc c'était Doris. C'était Doris, vous avez entendu. Donc il est temps de passer à l'entretien. Adala, c'est quoi? En fait, on avait entendu parler d'Adala dans les discussions, notamment la legal team, etc., les gens qui s'occupent du côté d'une protection juridique pour les participants. Et on avait entendu dire qu'une fois à Israël, que ce suivi serait assuré par une organisation qui s'appelle Adala. Donc, on a été voir qui c'est, ces gens, et qu'est-ce qu'ils font. Donc, c'est un entretien avec Mouna Dachri, qui est chargée de programme Maghreb et Moyen-Orient de la Fédération internationale des droits humains. Bonne écoute.
Bonjour, Mouna Dachri. Merci beaucoup pour cet entretien pour Radio Free Gaza. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement?
Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je m'appelle Mouna Dachri, je suis chargée de programme Maghreb Moyen-Orient à la FIDH, la Fédération internationale des droits humains. C'est une fédération de ligues de droits humains partout dans le monde. On compte 192 ligues et je travaille essentiellement sur la zone Mashrek.
Ok. Dans le contexte de la flottille de Semout qui est en route là pour l'instant, on avait appris que une fois que les participantes seront interceptées par l'armée israélienne, qu'une fois en Israël, ils seront défendus par une organisation qui s'appelle Adala, et j'ai regardé sur Internet, c'est un centre légal pour les droits de la minorité arabe en Israël. Est-ce que vous pouvez raconter un peu plus sur cette organisation?
Tout à fait. Alors déjà, on espère que des activistes de la flottille ne seront pas interceptés en mer, parce que, juste pour rappel, cela est une violation du droit international. Comme la flottille, comme les autres flottilles, que ce soit Hamdala ou Madine, ont été interceptées en eau internationale et n'avaient même pas l'intention d'aller entrer en Israël. Donc Israël n'a pas de compétence ou de souveraineté sur les eaux internationales, et donc c'est une violation de droit international. Donc on espère que cette fois la flottille pourrait briser vraiment le siège. En cas d'interception en mer, et vu les précédents d'Israël, notre organisation membre basée en Israël, Adala, qui est une organisation de défense de droits humains basée à Haïfa, elle existe depuis 1996. Elle va défendre et fournir l'assistance juridique aux activistes qui seront emprisonnés par les autorités israéliennes. Je voudrais juste rappeler ce que fait Adala d'habitude ou avant les flottilles. C'est une ONG qui fournit un soutien juridique à la minorité arabe en Israël. Et on parle là de 20% de la population d'Israël qui est palestinienne. Et Adala fait du contentieux stratégique, ce qu'on appelle du contentieux stratégique, surtout en ce qui concerne l'urbanisme, par exemple, le recours contre l'illégalisation des outposts ou des colonies israéliennes, ou contre les démolitions des villages des Bédouins et la judaïsation des villes et villages arabes. Aussi, Adala fait de la documentation des lois qui légalisent les discriminations entre la population juive israélienne et la population qu'on appelle arabe israélienne, qui sont des Palestiniens. Elle fait aussi des recours contre les détentions arbitraires des Palestiniens et Palestiniennes. Elle soutient la liberté d'expression de cette minorité arabe, la liberté de manifestation et les droits des prisonniers. Par exemple, depuis le 7 octobre, ils ont défendu les étudiants palestiniens d'Israël qui ont été virés pour leur liberté d'expression des universités israéliennes. Il y avait aussi des artistes arrêtés, humiliés, photographiés avec le drapeau israélien, comme Dalal Abu Amna, par exemple. Il y a aussi des professeurs qui ont été licenciés de leur poste dans les universités israéliennes, comme Madame Nadera Sholhoop. Donc, ce que va faire Adala maintenant pour cette flottille-là, ils sont mobilisés depuis des semaines pour se préparer en cas d'interception en mer, en eau internationale des activistes. Donc, Adala va fournir l'assistance juridique. Elle va challenger cette décision des autorités israéliennes d'intercepter en mer ces activistes-là et aussi le fondement juridique tout à fait bancal, si je peux dire, que cette flottille-là ou ces bateaux-là avaient l'intention de rentrer illégalement en Israël, alors que Gaza ne fait pas partie d'Israël et bien sûr, ça rentre pas sous la compétence juridique ou la souveraineté d'Israël. Adala aussi, ce qui est très important, c'est qu'elle fournit au monde extérieur des infos sur la situation des détenus de ces activistes-là, parce que, comme vous le savez, ils n'ont pas de vis-à-vis dans les prisons, ils n'ont pas d'outils pour communiquer avec le monde extérieur. Et donc, les avocats constatent que ce soit les infractions aux droits des détenus, par exemple, être en cellule, être dans des cellules, overcrowded, des cellules surpeuplées, n'avoir pas de fenêtres, des cellules pas aérées, etc. Et ils peuvent communiquer avec le monde extérieur pour dénoncer ces infractions et ces violations aux droits de ces prisonniers-là. Tous les prisonniers ont fini par être relâché, même si le fondement juridique à la base, comme on a dit, il n'est pas légal, parce que ces activistes-là n'avaient aucunement l'intention de rentrer en Israël. Oui. Et donc, voilà, c'est ce que fait Adala, grosso modo.
Ok. Vous avez raison, comme vous avez dit, peut-être que cette fois-ci, ça va marcher, hein, qu'on va passer.
J'espère bien.
Je l'espère aussi. Voilà. Est-ce que vous avez encore un message pour les auditeurs en Belgique?
Je vous recommande en fait de suivre Adala. Il y a une chaîne sur WhatsApp qui donne des alertes sur la situation des activistes. Bon, on espère bien encore une fois que les activistes ne seront pas interceptés en mer, mais au cas où, et vu les antécédents d'Israël et les violations du droit international, c'est un risque assez plausible. Donc, je vous recommande de suivre les alertes de Adala sur un groupe WhatsApp.
Oui, et où est-ce que je trouve, où est-ce que nous trouvons?
Je peux vous envoyer ça.
Oui. Et puis on va mettre ça sur la page de l'émission, comme ça les gens peuvent le consulter.
Super.
Merci beaucoup, Madame Dachery.
Je vous en prie.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir. Bon courage.
Merci.
D'être ici, hein.
Voilà, donc c'était l'interview avec Mouna Dachri. C'est presque la fin de l'émission déjà. Pour demain, nous avons un entretien avec Rossella Micio. Et Rossella Micio, c'est la directrice de Emergency, une organisation italienne qui intervient médicalement dans des zones de désastre où il y a des grands problèmes. Ils sont aussi à Gaza depuis un an. Et parmi les bateaux qui partent d'Italie, enfin, ou derrière les bateaux qui partent d'Italie, il y a un bateau qui s'appelle... j'ai oublié le nom là. Mais en tout cas, il y a un bateau d'Emergency qui est un bateau médicalisé, qui va garder ses distances et pas se mettre en danger, mais qui sera là en soutien avec la flottille. Voilà, donc ça c'est pour demain. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Et à demain.